Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de « Le brouillard de l'aube » de Christian Labori, lu par Pascal Chemin. L'aube se lève à peine. C'est peut-être celle de l'espérance. Geneviève de Gaulle-Antonioz. Première partie. Le drame. Chapitre 1. La grande rafle. Paris, 15 juillet 1942. Dans la rue du Faubourg Saint-Antoine, l'effervescence était à son comble. Les événements de la guerre, les affres de l'occupation ne semblaient pas troubler ces habitants qui, en dépit des privations communes à tous les Français, vaquaient à leurs activités comme si de rien n'était. Les bouches de métro vomissaient sans discontinuer leur lot de Parisiens toujours affairés. Les gazogènes se disputaient la chaussée avec les triporteurs et laissaient derrière eux des volutes de fumée bleutée qui empestaient l'atmosphère. Indifférents, les passants croisaient les soldats du Reich, dont certains se comportaient en véritables touristes. Chacun avait fini par s'habituer à ces uniformes étrangers qui rappelaient, s'il en était besoin, que la France avait perdu son âme en perdant la guerre et sali son honneur en signant, par un 22 juin 1940, l'armistice de la défaite et de la honte. Sous une douce chaleur estivale, en cette troisième année de cohabitation forcée, les habitants de la capitale prenaient des airs de vacanciers. Le bois de Boulogne était plein de promeneurs, les berges de la Seine grouillaient de badauds, les jeunes filles portaient court des robes légères et l'on canotait sur les bords de la Marne. Certes, les troupes d'occupation, mêlées à la population, créaient une atmosphère de crainte et de suspicion parmi les braves gens qui feignaient de les ignorer. Mais chacun s'efforçait de composer et tâchait de ne voir que ce qui lui permettait d'envisager les jours à venir avec sérénité. D'aucuns affirmaient que les Français avaient la mémoire courte. D'autres pensaient qu'ils faisaient preuve d'une grande faculté d'adaptation. « Quand souffle la tempête, expliquaient ces derniers, il faut savoir courber les chines pour ne pas se briser à vouloir résister. Savoir aussi attendre que le calme revienne pour redresser la tête. C'était le cas du plus grand nombre. » Depuis plusieurs jours, les rues de Paris étaient troublées par un mouvement inhabituel d'agents de police en tenue. La police parisienne, chacun le savait, obéissait aux ordres du gouvernement de Vichy et faisait régner l'ordre nouveau imposé par les Allemands. Certains inspecteurs montraient beaucoup de zèle et s'acharnaient avec arrogance à débusquer les fraudeurs du marché noir, les résistants, les juifs qui ne respectaient pas la législation en vigueur. Les arrestations en pleine rue et en plein jour, les disparitions à l'insu des familles étaient devenues monnaie courante dans ce pays résigné et vaincu. Les Parisiens avaient été très choqués, cependant, par la décision du gouvernement Laval de faire porter aux Juifs l'étoile jaune de David, comme en Allemagne. L'antisémitisme, en réalité, ne gangrenait qu'une minorité de la population. Aussi comprenait-on mal l'opiniâtreté de la police à vouloir démasquer les récalcitrants. La population juive, fichée, répertoriée, cataloguée en fonction de ses origines, subissait l'humiliation dans le secret espoir que les autorités françaises n'iraient pas aussi loin que les nazis en France. Le statut des Juifs de France, décrété par le maréchal Pétain dès octobre 1940, leur rendait bien la vie de plus en plus difficile, mais eux aussi finissaient par vivre dans l'attente que s'apaise la tempête.
« Vous me paraissez bien soucieux aujourd'hui, François. »
Comme chaque matin, Charles Duquesne, le libraire de la rue du Faubourg Saint-Antoine, comptait sa caisse avant d'ouvrir son magasin. Peu avant 9 heures, François Blumstein arrivait à la librairie pour prendre ses fonctions et faisait un peu de rangement en attendant les premiers clients. Sur sa veste, Lisa, sa femme, avait cousu avec une application de couturière l'étoile jaune qui le distinguait des autres habitants. Toutefois, Charles Duquesne, en humaniste épris de liberté qu'il était, avait demandé à son jeune employé de revêtir une blouse, de façon à masquer l'impression